patria, patriarca, 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 patriarca.
Pour que le beat tienne, le micro en main, que mon message parvienne.
C'est la révolte des femmes de ménage, des camionneuses et des petites filles bien sages.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste.
I wanna be a butch, I wanna be a butch. Cause butchs are strong and sensitive. Butchs are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight, nice and whores.
Et on se prend la main. Et on se prend la main. Une fille en masculin. Un garçon au féminin.
Dégenré, l'émission pour...
Déranger !
Une émission féministe...
Les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois...
De 18h30...
à 20h...
sur Radio Kaleidoscope...
97FM...
1h30 de féminisme pur...
Bonsoir, bienvenue sur Dégenré.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, ce soir, c'est une émission un peu spéciale, déjà parce que en ce moment même, il y a une écoute collective de l'émission à la MJC Parmentier, dans le quartier Saint-Bruno. Alors, si vous voulez venir nous rejoindre pour écouter l'émission ensemble. Et c'est une émission sur les violences faites aux femmes, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes, comme tous les 25 novembre. Et pour cette raison, à 20h30, il y a une manif qui part du quartier Saint-Bruno, de la place Saint-Bruno, jusque la place aux Herbes. Alors voilà, si vous voulez nous rejoindre pour la manifestation, vous êtes les bienvenus. Et pour commencer, on va vous lire des morceaux du tract qui appelle à cette manifestation et à cette soirée à la MJC Parmentier.
Dans le cadre de la journée contre les violences faites aux femmes... Nous vous proposons une manifestation de nuit en non-mixité, le mercredi 25 novembre, ce soir, à 20h30, départ place Saint-Bruno. Mais pourquoi une manifestation de nuit ?
Eh bien parce que la peur entretenue de la nuit fait de l'ombre aux violences de la journée. Non, les violences n'ont pas d'heure et elles sont partout, dans les maisons, dans la rue, au travail. En effet, les femmes sont majoritairement agressées par des hommes qu'elles connaissent, conjoints, collègues, voisins, patrons, oncles, pères, dans un lieu qui leur est familier. Cependant, l'espace public reste majoritairement, voire exclusivement, le territoire des hommes, d'autant plus la nuit.
En tant que femme, la rue est un espace de harcèlement, de reluquage, d'attouchement sexuel, d'injures, de sifflements, de ras-le-bol et de peur des agressions masculines, qu'elles soient physiques ou verbales, sexuelles ou psychologiques. En tant que femme, on nous assomme de règles de conduite qui restreignent nos libertés. ne sors pas toute seule le soir, ne mets pas de mini-jupe, tu provoques, ou encore, fais-toi accompagner par un homme. Ces règles contrôlent nos agissements et qui plus est, ne nous donnent pas d'outils pour nous défendre. Et si on ne suit pas ces règles, on a encore plus peur et on est culpabilisé, rappelé à l'ordre.
Nous voulons être libres de nos actes, de nos choix et de dire non. Où je veux, quand je veux et à qui je veux. Riposte, autonomie, résistance.
Mais pourquoi en non-mixité ?
Eh ben, en non-mixité, pour exprimer notre force et notre parole en autonomie par rapport aux hommes. Cette manifestation est en effet organisée entre femmes, filles, lesbiennes, trans, pour toutes les survivantes.
Celles qui aiment les mini-jupes et les talons.
Celles qui ont le crâne rasé.
Celles qui veulent pas de relations sexuelles.
Celles qui sont en galère de fric.
Celles à qui on dit qu'elles se sont trompées de chiottes.
Celles qui s'inquiètent pour leurs filles.
Celles qui veulent pas que leur fils devienne un macho.
Celles qui n'ont pas de papier.
Celles qui en ont marre de se faire mater comme un bout de viande.
Celles qui vivent dans la rue.
Celles qui veulent embrasser leurs copines dans le bus.
Celles qui sont racisées et exotisées.
Celles qui sentent fortes.
Celles qui ont peur le soir.
Celles qui en ont marre des mains au cul.
Les gouines et fières de l'être.
Les andies.
Les travailleuses du sexe.
Les féministes, tant qu'il le faudra.
Celles qui portent le voile.
Celles qui ne se ressentent pas être femmes.
Celles qui n'en peuvent plus des blagues sur les blondes de leurs collègues.
Celles qui veulent se balader la nuit en admirant les étoiles.
Enfin, toutes celles qui reconnaissent des petits bouts de leur vie dans ces violences et cette oppression. Alors en fait, du coup, l'alliance qui est proposée ici sans les hommes, bah, c'est celle d'une solidarité entre des personnes qui sont opprimées par un système patriarcal, qu'un système de domination des hommes sur les femmes. Puis ce système, bah, il repose aussi sur une division binaire, donc en deux catégories qui sont opposées, hommes, femmes, et qui sont éduquées chacun chacune de manière stéréotypée. Le pouvoir puis le contrôle des hommes, il se maintient entre autres par des agressions sexistes, lesbophobes et transphobes. Il se maintient par la peur, par la désinformation quant aux moyens de nous défendre. Alors nous, ce qu'on a envie, ce qu'on désire, bah, c'est créer un espace de partage et de soutien face à ces violences faites aux femmes.
Alors c'est pour ça que cette manifestation et cette soirée à la MJC Parmentier, elles seront uniquement entre des femmes, des filles, des lesbiennes et des trans.
Alors, pour revenir un peu à notre émission de radio, avant de partir manifester dans la rue, on vous propose d'écouter quelques reportages qu'on a fait pour préparer cette émission. Donc, on va les écouter tout au long de l'émission. Et pour commencer, un petit micro-trottoir. Alors, ce micro-trottoir, on est parti à deux dans la rue avec notre micro-enregistreur. Et puis, on a cherché des femmes dans la nuit à Grenoble. Bon, alors déjà, le soir à Grenoble, il n'y a pas grand monde, c'est vrai, c'était en semaine. Mais alors, dans ce pas grand monde qu'il y a, il y a encore pas beaucoup de femmes aussi. Donc, c'était déjà un des trucs qu'on avait envie de dire. C'est que on a croisé, je pense, à peu près, ça devait représenter, allez, à la louche, hein, 30% des personnes qu'on rencontrait qui étaient des femmes. Tout le reste, c'était des hommes. C'était pas si simple de rencontrer des femmes. Alors, des femmes seules, encore plus. La plupart des femmes qu'on rencontrait étaient accompagnées avec leurs compagnons ou en bande avec des potes et tout. Voilà, voilà. Et alors des femmes seules, sans... On a aussi croisé plusieurs femmes qui étaient à deux ou trois copines. Et alors des femmes toutes seules, c'est la minorité vraiment qu'on a rencontrée. Bon, j'avais envie de déjà dresser ce petit tableau qui déjà sûrement est un peu significatif de réalité. Et puis maintenant, je vous propose d'écouter ce micro-trottoir que nous avons réalisé.
On fait une émission sur comment les femmes se sentent, notamment dans la rue, la nuit.
Ouais, et pas de problème.
Maggie, okay, elle le fait, hein.
Maggie, de ma manière, moi, pas de problème dans la rue le soir. Hein. À la partie là, pas de problème.
Ouais. Ah, mais vous pouvez parler.
Je travaille dans la restauration, donc je sors. Genre, il est minuit, 11h du soir. Je suis en voiture, je suis pas en tram. Mais voilà, j'ai pas peur.
Moi, j'ai peur.
Le soir. Mais attends, j'ai pas la voiture, c'est normal que j'ai peur.
Moi non plus, mais bon, en même temps, j'habite en ville, je travaille en ville, je traîne en ville, je sors en ville.
Moi, j'habite pas en ville, je suis obligée de traîner avec le tram, donc c'est normal.
C'est... Est-ce que vous avez des stratégies pour avoir moins peur?
Il vient me chercher, et mon copain.
C'est lui la stratégie.
Vous avez des stratégies un peu, des trucs
Non, même pas. Franchement, pas en particulier quoi. Juste quand par exemple il y a des hommes qui nous interpellent ou quoi. Pas manquer de respect, parler à leur niveau, ouais. Parler comme eux, s'adapter à leur langage. C'est-à-dire si c'est des racailles ou quoi, parler comme eux. Et après il n'y a aucun problème. Ça m'arrivait plusieurs fois, en rentrant de boîte par exemple du Cadoc, en passant par les souterrains de la gare, où il y avait une dizaine de gars qui étaient tous dans les souterrains. Et tout simplement en parlant comme eux, en étant comme si c'était mes potes, quoi.
Ouais, c'est pas montrer qu'on a peur, mais
voilà,
si on a
exactement.
Peur.
Ouais, c'est comme un chien. C'est comme avec un chien. Faut pas leur montrer qu'on a peur, sinon ils mordent les chiens. Et ben les hommes, c'est pareil.
Et est-ce que ça vous arrive des fois de choisir votre itinéraire en fonction d'endroits où vous sentez mieux que d'autres?
Bien sûr. Ouais. On vit dans les quartiers, par exemple. On vit dans les quartiers, on va pas passer en plein Villeneuve à 3h du matin en mini-jupe, quoi.
Oui,
ce qui est normal, après, faut pas tenter le diable non plus, quoi.
Après, bon, quand nous, moi je suis en voiture, donc. Moi je passe par la voie sur berge. Je sais qu'une fois j'ai une amie sur la voie sur berge, une voiture s'était arrêtée dans le coin. Et en fin de compte, ils se sont mis carrément la voiture arrêtée et ils se sont mis sur la route les mecs. Et elle a foncé dans le tas, le mec il s'est barré. Mais voilà, bon moi c'est mon itinéraire pour rentrer chez moi, j'ai pas le choix. C'est le plus court pour rentrer, surtout la nuit, donc j'ai pas envie de faire des détours.
Et est-ce que vous auriez des trucs à donner à des femmes qui auraient peur justement de rentrer toute seule chez elles la nuit? Est-ce qu'il y a des trucs qui aident?
Je sais, je me balade quand même toujours avec une bombe lacrymogène.
Ah ouais, obligé.
J'ai mon sac, j'ai mon lacrymogène.
Moi j'en ai pas,
toujours.
Mais il faut que...
Moi j'ai une bombe sur moi, elle m'a servi une seule fois.
J'ai un petit couteau dans mon sac.
Ah ouais?
Donc, ouais.
Mais c'est, après, je pense que tout simplement c'est le fait de...
Je sais me défendre aussi, donc... Malgré les apparences, je sais me battre, donc ça m'est arrivé ouais, que je suis agressée dans la rue, ouais. Mais que...
Mais vous avez su répondre.
Ouais, enfin, oui, j'ai su répondre.
Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est
un coup dans la figure. Donc le mec, il est parti en détalant.
Vous pouvez nous raconter la fois où vous avez utilisé la bombe?
La bombe lacrymogène, c'était au Parc Paul Mistral. C'était au Parc Paul Mistral un soir. Hein. Je me rappelle, c'était un... Je cherchais mon ex à l'époque, ce soir-là. Je le cherchais de partout. Et donc je suis passée par le parc pour ministrer et tout ça, etc. Il y avait deux mecs assis sur un banc. Et je crois que c'était en train de se droguer ou quoi. Et ils ont commencé à venir vers moi, à pas vouloir me lâcher, à me prendre par le bras et tout. J'ai fait lâche-moi et tout. Et j'ai commencé à devenir un peu agressive. J'ai sorti ma bombe lacrymogène et je suis partie après. Ce qui heureusement que j'étais en basket ce jour-là. C'était la seule fois d'ailleurs où j'étais en basket, je crois. Une des seules fois.
Et vous pensez que ça, c'est vraiment un truc que les femmes connaissent plus que les hommes, ce truc de devoir se sentir forte ou avoir peur?
Ouais. Bien sûr. Homosexuel. Voilà. Homosexuel.
Bah vous, justement, comment vous vous sentez quand vous rentrez comme ça, toute seule, la nuit? Est-ce que vous vous sentez bien ou est-ce que des fois... Vous accélérez le pas, ou je sais pas, est-ce que vous pouvez me parler de
non,
ça?
En général, j'accélère pas spécialement le pas parce que je suis garée pas très loin de mon travail. Donc j'ai jamais eu de problème particulier, j'ai jamais rien vu de particulier, mais par contre, j'entrerai pas à pied chez moi toute seule. Ça c'est sûr, je rentre en voiture.
Et qu'est-ce qui vous ferait peur alors de rentrer toute seule?
Quand il fait nuit, c'est un peu désert, on sait jamais sur qui on peut tomber. Mais par contre, l'été, quand c'est à 9h le soir, je le fais, parce qu'il fait encore jour.
Et du coup, si jamais vous devez le faire, vous voulez sortir, comment vous arrangez? Est-ce que vous sortez avec des amis plutôt?
Ah non, alors de partir de chez moi, je prends ma voiture, je vais jusqu'au point de rassemblement et après on est avec des amis ensemble. Mais je n'attends pas que quelqu'un vienne me chercher à la maison, non.
Et la voiture, c'est rassurant alors?
C'est un peu plus rassurant, oui. Après, on n'est pas à 100% rassuré dans une voiture. Donc quand même enfermé, on se sent un peu protégé.
Et c'est quoi la nuit qui est particulier? Parce que vous dites à la même heure, s'il fait jour...
Ça, en fait, c'est parce qu'on n'y voit pas, on ne voit pas les gens arriver, on ne sait pas ce qui se passe. Et la journée, on voit quand même un peu mieux, c'est plus éclairé, c'est plus rassurant. Et puis la nuit, le soir, il y a moins de monde. Donc le fait qu'il y ait moins de monde dans les rues, ça a un côté un peu moins rassurant que la journée.
Et vous êtes déjà arrivé d'avoir peur, vraiment ou...
Vraiment peur? Non. Bah, je suis pas une peureuse de nature, donc j'ai pas peur, mais après dans des situations, c'est sûr qu'il faut pas aller chercher la petite bête où il y en a pas, quoi.
Comment vous vivez le fait d'être dans la rue la nuit?
Alors déjà c'est très très rare, ouais. On est bien là.
Il fait pas encore trop froid, alors ça va, non?
Est-ce que vous avez peur des fois, ou est-ce que des fois vous vous empêchez de le faire?
Peur, ça dépend où après.
Ouais, si.
Place ici, Victor Hugo, il y a du monde, il y a de la lumière, ça bouge, ça va.
Dans les petits coins, par exemple.
Et du coup, est-ce qu'il y a des endroits où vous évitez d'aller, ou si vous devez rentrer chez vous d'un certain endroit, vous allez choisir juste en plus des grands axes?
Bah déjà, on va pas passer par le parc Mistral. Hein.
Là, on évitera Saint-Bruno, Tesserre.
Pourquoi?
Bah après,
il y a pas de lumière,
hein.
Ouais,
et même ça craint là-bas.
C'est quoi que vous risquez, à votre avis?
Bah, c'est plus des bandes qui traînent ensemble et...
Bah, de se faire embêter.
Ouais, pour rien.
Ouais. Mmh. Voilà. En plus, surtout quand on est des filles. Hein.
Ouais, ça change quelque chose, ça.
Ah ouais. Hein.
Bah ouais, bébé baga tout seul, je crois que... Faut être à plusieurs, en fait, si on sort. Plusieurs gars ou soit on sort pas.
Et par exemple, est-ce que là, vous allez rentrer ensemble ou vous allez rentrer chacune de votre côté ce soir? Ou comment vous vous organisez?
J'ai ma voiture, ramène. Je la ramène. Et
ah
voilà.
Bah oui, si on serait venu à pied, enfin perso, je serais pas venue. Hein. Je vais pas rentrer toute seule à pied chez moi. Hein.
Et est-ce que vous avez déjà assisté à des scènes d'agression comme ça?
Oh oui, même ici précisément.
Ah, et comme quoi, même ici finalement, ça peut arriver.
Ouais, non, dans le tram.
Ah ouais.
Voilà, ils ont arrêté le tram ici. Voilà.
Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est une dame, une vieille. Enfin, une vieille personne âgée.
Alors, c'est quoi vos armes de prédilection?
Bah, bombe acrymo, couteau.
Et vous seriez prête à vous en servir?
Ah bah oui, hein.
J'ai pas mis là pour rien.
Bah oui.
Vous en êtes déjà servi?
Ouais.
Et c'était quoi la situation? Vous voulez bien nous raconter, hein?
Mais en fait, c'était pas moi en elle-même. En fait, c'était une amie qui se faisait embêter par des deux jeunes dans Lyon. C'était pas sur Grenoble, malheureusement. Ça aurait été plus marrant. Et voilà, et bah, donc du coup, bah, pour qu'ils arrêtent, et bah, pas le choix. Hein.
Et efficace.
Efficace. J'en ai même racheté une toute neuve.
Donc ça, ça fait que vous avez moins peur?
Ouais, bah, moi comme ça, près de la main, et voilà.
Et si jamais un soir, vous sortez et vous l'oubliez, qu'est-ce qui se passe dans votre tête?
Bah, je courirai, hein. Pas le choix, de toute façon. Je me servirai de mes jambes. Voilà.
Donc la nuit, quand on est une femme, faut être sportive. Voilà. Ou avoir une lacrymo.
Voilà.
Vaut mieux, hein.
C'est sûr, voilà. Pas le choix.
Avant, par exemple, quand j'étais plus petite et tout, je passais par le parc Mistral et tout. Et maintenant, je sais pas, quand on grandit après... Maintenant, je le fais plus.
On a vite peur, maintenant, surtout ici. Hein.
Avec beaucoup de réponses. C'est toujours bien de se promener la nuit, mais bon, il faut faire gaffe parce que y en a qui peuvent nous sauter dessus. La nuit, c'est vrai qu'il y a moins de contrôle. Puis il y a tout l'imaginaire aussi qui est derrière, qui fait qu'on a toujours un peu plus peur de se promener la nuit en ville, surtout pour les femmes, parce que bon, on ne sait jamais ce qui peut nous tomber dessus, surtout qu'on a un peu moins de force physique et qu'on ne pratique pas toujours du karaté ou je ne sais quel sport pour pouvoir se défendre correctement.
Et vous, est-ce que vous avez des trucs pour ne pas avoir peur?
Non. Non, j'avance.
Est-ce que vous avez l'impression que des fois vous changez d'itinéraire ou vous choisissez un certain itinéraire plutôt qu'un autre pour justement avoir moins peur ou...
Bah, je reste surtout dans les avenues où il y a de la lumière. C'est clair que toute seule, sans rien sur moi, j'irais pas m'aventurer consciemment dans une ruelle noire et après aller crier au secours parce qu'on pourra m'avoir agressée ou violée ou je ne sais quoi. Donc après, je pense que c'est de la responsabilité de chacun de prendre en compte... ce qui peut arriver si jamais on passe dans certaines ruelles ou itinéraires. Enfin, j'irai pas sciemment me promener dans Villeneuve, quoi. Toute seule, la nuit, c'est pas quelque chose que je ferais.
Je me pose la question de d'où elle vient cette peur? Qui nous l'a transmise?
Ah, ça vient des générations. La peur, c'est le noir, c'est le diable, c'est l'inconnu. Il y a aussi tout le contrôle public qu'on exerce sur nous la journée, qui est plus là. Il y a plus de policiers, il y a plus de rien. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a plus ça? Est-ce qu'on est surveillé? Est-ce qu'il y a des caméras de surveillance? Il y a tout ça qui marche.
Ça vous rassure, tout ça?
Pas forcément. De toute façon, s'il y a quelque chose qui doit nous tomber dessus, ça nous tombera dessus, quoi qu'il se passe. Donc après, je pense qu'il faut faire gaffe avec ce qu'on a et puis avancer.
Et est-ce que, quand vous avez le choix, vous préférez sortir avec des amis ou c'est pareil pour vous d'être...
Moi, j'aime bien les deux. Après, c'est vrai que si jamais je me sens pas en sécurité, je chercherai plus à rentrer à des heures pas trop tardives où il y a encore du monde et avec des amis si jamais c'est trop tardif. Après, si vraiment je me sens à l'aise dans le chemin que j'ai à faire ou si je sens que c'est une bonne soirée, je rentrerai toute seule.
Donc ça dépend aussi de comment vous vous sentez, vous,
ouais.
Comment vous vous sentez forte.
Ouais, exactement. La force, c'est une bonne chose.
Mais vous, vous vous sentez forte, globalement?
Pas dans le sens physiquement. Je fais pas de sport. Enfin, je fais pas de sport. Je fais pas du karaté. Après, c'est peut-être une force mentale qui fait que je sais que si jamais j'avance vite, que si j'ai des problèmes, je garde les yeux baissés, j'affronte pas le regard de l'autre. C'est comme un animal finalement. Si vous avez un animal sauvage en face de vous, un lion qui est prêt à vous sauter à la gorge, vous le sautez pas dessus sur le lion. C'est du bon sens, quoi.
sujet qu'on souhaite aborder, c'est comment se sentent des femmes dans la rue, la nuit en particulier. Alors si vous voulez bien nous dire comment vous vous sentez là.
Non, c'est pas pour toi, c'est
bah là, plutôt bien, parce qu'on est accompagnés, puis on est en groupe, donc ça va. Et puis, il y a du monde, il y a quand même pas mal de population, c'est... Pour un début de semaine, c'est quand même assez agréable au plein centre-ville. Par contre, quand il s'agit de rentrer chez nous,
est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur ?
C'est pas de la peur, c'est plutôt de l'appréhension. C'est quand il y a moins de monde, quand surtout moi j'habite vers les grands boulevards et moins il y a de personnes en fait, et plus c'est difficile de se sentir à l'aise et en sécurité, ça c'est sûr. Et il suffit qu'il y ait quelqu'un derrière. Bon, moi je sais que c'est quelque chose que j'ai à l'esprit. Après ça dépend des jours, mais.
Est-ce que vous avez des trucs, justement, quand il vous arrive d'avoir un peu d'appréhension, comme ça, vous avez des trucs pour vous rassurer ?
Je serre mes clés dans ma poche, en me disant que ça peut toujours servir. Puis je me dis que c'est dans ma tête, et que c'est que de la peur, et qu'il faut que j'évacue cette mauvaise pensée, de manière à me sentir plus à l'aise et plus détendue, et de ne pas être déjà conditionnée par la peur. Mais bon, il m'est arrivé déjà des trucs bien pourris hein, à Grenoble, hein, et pas forcément là où je m'y attendais, plutôt au centre-ville et plutôt dans un quartier que je connaissais. Et bon, quand ça tombe dessus, on n'y échappe pas. Voilà. Mais sinon, non, ça, quand on est en groupe, tout va bien.
C'est ça la grosse différence. Ouais. En fait. Moi aussi, hein, seule notamment, il m'est arrivé des choses bien pourries. Ouais. Et de me sentir vraiment agressée. J'ai même été agressée une fois.
Et est-ce que vous pensez qu'il y a des états dans lesquels vous pouvez vous sentir comme plus ou moins fatiguée ou quoi, qui peuvent faire que vous ayez plus ou moins peur, vous soyez plus ou moins dans l'appréhension ?
Enfin, moi, je me sens pas bien quand je suis en colère, quand je suis fatiguée. Je me dis que je vais avoir vraiment une tête pas avenante du tout et que ça me protège plus qu'autre chose. Et puis, il ne faut pas m'emmerder, quoi. Là, je ne suis pas vraiment dans le bon esprit, donc non, c'est plutôt rassurant.
Non, moi, quand je suis fatiguée, je me sens plus vulnérable.
Comme quoi ? Moi, Grenoble, je trouve que ce n'est pas forcément très rassurant.
Ah oui ?
Des moments à 11h30 quand on prend le tram, maison du tourisme et qu'il n'y a pas un chat. Là, c'est un peu le no man's land. Hein. Puis passer la place Victor Hugo, il n'y a plus personne. Les rues sont vides, il ne se passe rien, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de boutique ouverte. Hein.
C'est vrai.
Voilà. Bah oui, les cafés, les bars qui sont ouverts tous les soirs dans d'autres grandes villes. Bon, bah ici, c'est vrai que c'est très convivial. Mais après, oui, il suffit de descendre à partir de Verdun, attendre le tram à Verdun quand il y a juste les voitures qui passent, trois pelés qui attendent le préfet, il habite à Coron ou à Mélan. Hein. À mon avis, il n'a pas sa petite chambre et sa garçonnière à la préfecture. Hein, donc, je vous crie, je préfère.
Vous voulez rajouter autre chose ? Je ne sais pas, vous n'êtes pas trop exprimé. Vous
avez. C'est juste que je me déplace à vélo. Et forcément, on se sent pas aussi vulnérable quand on est seul à vélo que quand on est à pied. Après, effectivement, il y a des moments où je pédale plus vite que d'habitude. On se dit, hop, 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 tiens, Hélène. J'y vais, mais je pense que c'est plus rassurant, effectivement.
C'est en fonction des endroits que vous pédalez plus vite ou
Après, c'est pas forcément en ville, mais à une époque, je travaillais super loin. Et du coup, effectivement, traverser des lieux sans lumière ou... On ne sait pas trop qui est dans les coins. Là, effectivement, tout d'un coup, on découvre qu'on peut pédaler à une vitesse insoupçonnable.
La condition d'être d'une fille, c'est ça, c'est faire quand même attention.
Et est-ce que ça, c'est une fatalité ?
Oh, c'est une question d'éducation. Enfin, des garçons, hein. Si les garçons étaient un peu mieux éduqués, je pense qu'on se poserait moins de questions. Et on ferait plus attention à ce qu'on va faire en sortant qu'on va faire... avant d'arriver.
Oui, on serait plus libre.
Voilà, on va se dire, bah tiens, aujourd'hui je vais m'habiller un peu plus cool, j'ai pas besoin de mettre mes baskets, on sait jamais si je dois courir. Je prends pas de sac en bandoulière ou de sac à dos, je prends un petit truc. Bon, oui, ça conditionne un petit peu, c'est vrai, mais c'est plus une question d'éducation, respect de l'autre.
Une punition, moi je trouve que les agresseurs ne sont pas suffisamment punis. Et c'est pas suffisamment su, c'est comme les mecs qui battent leurs femmes, c'est pas assez. On a encore des années de retard à ce niveau-là et les femmes ont encore beaucoup pour arriver à se balader dans la rue le soir, ne pas se dire qu'elles vont prendre le poing sur la figure ou des choses comme ça. Moi je trouve qu'on a encore. J'espère que ça va se faire en quelques générations, mais moi je trouve que ça avance pas vite quoi. Même si on a l'impression que ça a été, il y a eu de grosses avancées, mais je trouve qu'il y a quelque chose de normal à encore voir des femmes battues ou des femmes parce qu'elles sont habillées un peu plus court, être agressées, enfin des choses. Voilà, il y a encore beaucoup de chemin à faire.
Mais il y a quelque chose aussi qui m'a frappée, c'est toujours révoltant de voir quelqu'un se faire agresser, c'est une évidence. Maintenant, même quand je vois une fille se faire emmerder dans la rue, je me dis, ça m'étonne pas. Ça ne viendrait pas à l'idée de ne pas intervenir, mais c'est quand même c'est une réalité. C'est pas une fatalité, parce qu'il y a quand même des gens qui sont humains, qui ont l'intelligence du comportement, mais c'est une réalité quand même, et ça devient presque banal de voir une fille se faire un petit peu brancher, même juste se faire brancher, ça peut être une agression alors qu'il n'y a pas plus, mais c'est le sous-entendu qui est violent. Vraiment, c'est le fait de s'approcher, d'avoir une attitude un peu pas agressive, tout simplement de dire mais pourquoi tu m'abordes ? J'ai envie de te parler, c'est un peu ma sphère, pourquoi tu t'invites dedans ?
Et vous disiez que vous réagissez quand vous voyez une fille se faire emmerder, vous intervenez ?
Ah ben oui. Parce que comme ça m'est arrivé et que personne n'est intervenu, on sent un grand moment de solitude. Et puis même, si je le vois, je vois. Ça m'est pas arrivé souvent non plus. Je veux dire, ça se passe pas toutes les semaines. Mais je pense que je dormirais plus mal la nuit si j'avais vu quelque chose et que j'avais baissé les yeux. J'ai baissé les yeux une fois et j'en suis pas fière.
Sur la place des femmes dans la ville et notamment est-ce que les femmes ont peur la nuit dans la rue, pourquoi
Bah vous, comment vous vous sentez là par exemple?
Ah bah moi très tranquille, hein, le soir en général, en sortant du ciné en l'occurrence, ça ne me pose aucun souci de me balader dans la rue, même toute seule. Non, je ressens pas ça, en tout cas pas à Grenoble. Non, pas de violence, pas de sensation.
Est-ce qu'il vous arrive de changer d'itinéraire, de dire « Ah, je vais plutôt prendre cette rue-là » ou plutôt que celle-là ?
Non, parce que j'ai pas vraiment d'itinéraire, en fait. Donc je circule. En même temps, j'arpente pas toutes les rues de Grenoble. Hein. En général, on sort du ciné, on se balade un peu là toutes les deux, et puis ensuite on prend le tram, on rentre. Quoi. Je suis pas une peureuse, moi, dans l'ensemble.
Et est-ce que vous comprenez que certaines femmes aient peur la nuit?
Ah ben oui, je l'entends bien, ça, bien sûr. Bien sûr, j'ai eu des femmes qui sont... Oui, c'est pas quelque chose que j'ai vécu personnellement, là, comme ça, en ville, mais je peux comprendre que des femmes dans certains quartiers puissent se sentir en insécurité, une vraie insécurité. Enfin, il y a sans doute des situations où il y a des quartiers où en effet on n'a pas trop envie de traîner longtemps, où rien que le fait d'être femme dans certaines rues, c'est déjà comme une sorte de provocation en soi, quoi. Des endroits en effet, oui. Voilà, je n'y vais pas particulièrement dans ces quartiers-là. Enfin, je ne sais pas s'il y a un quartier en particulier. En tout cas, moi, je l'ai pas ressenti.
En centre-ville, en tout cas, vous ne ressentez pas ça?
Non, pas en centre-ville. Et même du côté de Saint-Bruno, où je travaille, qui est censé être le quartier un peu chaud, non plus, quoi. Au contraire, c'est un quartier de la vie, donc je dirais que la proximité des personnes fait que... Voilà. En tout cas, c'est pas une question à laquelle je pense constamment. Comme je vous dis, je crois pas être peureuse ni dans l'inquiétude de jour comme de nuit d'ailleurs. Peut-être que s'il m'était arrivé un mauvais coup, je serais comme ça inquiète. Non.
Et si vous avez ou si vous aviez une fille, est-ce que vous avez l'impression que dans la façon, par exemple, quand elle serait adolescente, est-ce que vous avez l'impression que vous la restreignez, alors je ne vais pas réussir à conjuguer le verbe, de la restreindre dans ses sorties,
dans ses sorties,
d'avoir peur pour elle, enfin, je ne sais pas.
Ah, c'est sûr, que, sans doute, mais pas seulement pour ma fille. J'ai un fils et une fille, je serais toujours un peu inquiète le soir de les savoir. J'aimerais quand même les savoir un peu accompagnés, quoi.
Pareil pour les deux.
Ouais, pareil pour les deux là. Ouais, peut-être que je serais plus inquiète pour mes enfants, ouais. Mais pas non plus dans le stress, dans un truc à ressasser. Non, je crois pas. Non.
D'accord, c'est intéressant.
Maman m'a dit, faut pas aller là-bas.
Alors voilà, c'était une chanson de Robotnichka qui s'appelle Disco Girl. Maintenant, on va vous donner quelques chiffres par rapport aux violences faites aux femmes. Et il faut savoir que c'est des chiffres qui sont souvent sous-estimés parce que il y a beaucoup d'agressions ou de violences qui ne sont pas racontées, qui ne sont pas dénoncées, qui ne sont pas déclarées à la police de manière officielle. Alors voilà, c'est des chiffres assez sous-estimés.
91,2% des victimes de viol sont des femmes et des filles. 99% des agresseurs sont des hommes.
D'après l'enquête NVEF, donc c'est l'enquête nationale sur les violences envers les femmes en France, environ 50 000 femmes de 20 à 59 ans sont victimes de viol par an en France.
Seulement 6% des agressions sexuelles sont déclarées à la police.
Plus du tiers des femmes agressées sexuellement dans leur vie l'ont été avant l'âge de 15 ans, toujours d'après l'enquête NVEF.
En France, une femme meurt tous les deux jours suite à des violences conjugales.
D'après une étude en Suisse, plus d'une femme sur cinq a subi des violences physiques et ou sexuelles dans le cadre d'une relation de couple.
Dans le monde, une femme meurt toutes les 7 minutes suite à un avortement clandestin.
Le taux de suicide des jeunes est 4 fois plus élevé chez les lesbiennes.
63% des lesbiennes déclarent avoir été victimes de lesbophobie, le plus souvent dans l'espace public, la famille, le milieu amical ou au travail. C'est selon une enquête de SOS Homophobie.
La transidentité est toujours officiellement considérée comme une maladie mentale et tous les 3 jours, une personne transgenre est assassinée dans le monde. 3 assassinats par mois aux USA.
Actuellement, en France, pour pouvoir changer de papier d'identité, les personnes trans doivent se soumettre à une stérilisation.
Donc, on voit que ces chiffres sont assez alarmants. Il y en aurait beaucoup d'autres. Hein. C'est quelques enquêtes. Si ça vous intéresse, si vous cherchez à avoir plus de chiffres, n'hésitez pas à rechercher dans les enquêtes, notamment celle qu'on a citée, l'enquête NVEF, qui date de 2002 ou 2003, je crois, et qui est une des dernières enquêtes vraiment précises sur la question des violences faites aux femmes.
Et qui est aussi trouvable à la bibliothèque féministe.
Oui.
Ainsi qu'en fait d'autres documents sur lesquels on s'est penché pour cette émission. Et donc, pour rappel, la bibliothèque féministe, c'est 5 rue Henri Bergson. Donc, les jeudis après-midi de
16h à 20h. Alors n'hésitez pas à passer, venir emprunter des livres. Moi, j'avais envie de donner des contacts d'associations, parce que heureusement, du coup, face à ces chiffres, face à ces réalités, il y a des associations qui se mobilisent pour essayer de changer un peu les choses et, en tout cas, dans un premier temps, de venir en aide aux personnes victimes de ces violences. Donc deux associations qui luttent directement contre les violences faites aux femmes et qui ont des permanences d'écoute et des permanences d'accueil. Solidarité Femmes, qui se situe au 6 Galerie de l'Arlequin, donc à la Villeneuve, 04 76 40 50 10, donc Solidarité Femmes. Toutes ces associations-là, vous pouvez les retrouver dans les annuaires, sur Internet. Bon, voilà, c'est les associations de Grenoble hein, qui travaillent en collaboration quand même avec les services sociaux et tout, donc vous pouvez les retrouver assez facilement si vous n'avez pas le temps de noter là, les numéros pendant que je le dis. Une autre association qui lutte aussi et qui travaille auprès des femmes victimes des violences conjugales, il me semble, c'est un peu leur spécialité, c'est Milena. Milena, c'est 10 avenue Constantine. Il y a aussi un système d'accueil et d'hébergement des femmes qui, du coup, devraient quitter leur domicile conjugal, comme on dit, à cause des violences de leur conjoint. Milena, 04 76 29 10 21. Voilà, ça c'était les deux associations à Grenoble. Peut-être il y en a d'autres qui existent, hein, renseignez-vous. Et puis, puisqu'on parlait de lesbophobie et des violences faites contre les lesbiennes, c'est des violences spécifiques, si vous avez besoin, il existe une association des lesbiennes de Grenoble qui s'appelle Les Voix d'Elle. Alors, Les Voix d'Elle, leur local se situe au 8 rue Sergent Bobillot. C'est dans le quartier de l'ancienne caserne de Bonne. Et elles ont une permanence tous les lundis de 19h30 à 21h30. Donc une permanence téléphonique 04 76 85 20 64. Les lundis de 19h30 à 21h30. Le reste du temps, c'est le répondeur, la répondeuse d'ailleurs, avec les différentes informations de l'association. Et sinon, la permanence tous les lundis soirs dans leurs locaux, donc au numéro 8 de la rue du Sergent Bobillot.
Et alors, justement, dans le cadre de cette émission, on a voulu plus se pencher sur le sujet spécifique de la lesbophobie. Donc, on a été faire une interview, aux Voix d'Elle. Et alors pourquoi on parle de lesbophobie ? C'est pas un mot qui est obligatoirement très courant. Par exemple, actuellement, il est toujours pas présent dans les dictionnaires. Mais c'est parce que le mot lesbophobie, par rapport au mot homophobie, il met en avant le fait que les lesbiennes sont doublement discriminées, d'abord en tant que femmes par le sexisme et en tant qu'homosexuelles.
Alors voilà, on a eu une petite discussion avec elle et on a fait un montage de notre discussion. Et on voit que c'est quelque chose qui est important d'une manière générale avec la lesbophobie. C'est pas évident de recueillir des témoignages sur les violences lesbophobes parce que c'est souvent invisibilisé, c'est souvent diminué, ou parce que c'est difficile aussi de se positionner en tant que victime et de dire « Ah oui, j'ai subi des violences », tout ça. Mais on a quand même eu une discussion super intéressante au local des Voix d'Elle.
En fait, par rapport à ça aussi, si vous voulez dénoncer du coup justement des actes lesbophobes qui vous seraient arrivés, il y a aussi spécifiquement le contact de SOS Homophobie, donc qui a sorti un recueil spécifique sur la lesbophobie, sachant qu'il n'y avait encore eu aucune enquête chiffrée qui avait été faite en France. Et il y a un numéro aussi d'écoute qui est le 0810 108 135. Et maintenant, on peut écouter notre interview.
Est-ce que dans ma soeur, quand vous faites les permanences, tout, il y a beaucoup de gens qui viennent vous parler d'histoire de lesbophobie et tout ça ?
Oui, il y en a eu. Dans le cadre de... Enfin, moi, j'avais eu un témoignage dans le cadre du travail. Mmh. En fait, où la personne avait été un peu mise à l'écart, voire licenciée parce que elle était en menace de licenciement parce que justement elle avait déclaré son homosexualité, que ça passait pas du tout.
Maintenant, il y a des gays et des lesbiennes dans leur milieu de travail. Ma compagne, par exemple, elle annonce la couleur tout de suite, quoi. Alors ça donne lieu à des réactions du style oups. mais bon, dans l'ensemble. Alors après, s'il y a un truc qui est rigolo, c'est que même quand elle rencontre des personnes nouvelles sur son lieu de travail, bah, tout le monde sait déjà, connaît déjà sa sexualité, quoi. Voilà. Mmh. Ça parle derrière. Voilà.
Et dans la famille ?
Alors ça a été le plus difficile, parce que j'ai mis beaucoup de temps avant de le dire. Et puis bon, il y avait des réflexions homophobes et lesbophobes de la part de mes parents. Donc c'est vrai que pendant des dizaines d'années, ça m'a... J'ai rien dit, quoi. Puis un jour, c'était trop flagrant, il fallait que je le dise. Quand, pour la troisième fois, tu déménages et que c'est avec une nouvelle femme, c'est sûr que la colocation, ça va 5 minutes. Surtout quand tu passes la quarantaine, c'est un peu... Donc bon, ben voilà, ça a été un drame. Ma mère s'est enfermée dans sa baraque pendant 48 heures sans répondre au téléphone et en pleurant. Puis après, ça allait mieux. Il a fallu que ça passe, quoi. Voilà. Donc ça, c'était un peu difficile. Mais maintenant, ça va être très bien. Voilà, j'ai pas eu le courage de le faire avant. J'aurais sans doute dû. Il faut un peu les violenter, quand même, des fois. Je sais pas.
Moi, mon père, il a rien dit. Je pense. Je sais pas trop. Mais c'est sa copine qui m'a dit... d'une manière tellement sympathique, alors que je venais d'exprimer que je me sentais très bien, que j'avais une copine et que c'était chouette dans ma vie, qu'il me dit d'un air un peu compatissant, mais t'inquiète pas, c'est normal, ça nous arrive à toutes de tomber amoureuse d'une copine, mais t'inquiète pas, ça passe. Comme si c'était pas acceptable que juste je sois heureuse comme ça et qu'il fallait juste que je m'en inquiète et attendre que ça passe et qu'après je serais heureuse avec un homme, quoi. J'ai vraiment halluciné quand on m'a dit ça.
Il y a un autre cas auquel je pense, c'est que de plus en plus, bon, c'est assez curieux, ça date de quelques années, on reçoit dans l'association des femmes qui ont eu une vie hétéro avant, donc qui ont été mariées, qui ont eu des enfants, et qui, bah, à peu près au-dessus de 35-40 ans, divorcent, alors peut-être bon, pour X raisons, peu importe, hein, et viennent dans une association de lesbiennes vivre sans doute ce dont elles rêvent depuis fort longtemps et qu'elles se sont interdites de vivre jusqu'à présent. Et là, elles sont confrontées à la lesbophobie supposée de leurs enfants. Ça, c'est un cas assez nouveau, je trouve, qu'on n'avait pas eu à traiter. Alors nous, bon, avec nos grands principes, étant nous-mêmes souvent sans enfants, on leur dit, mais tu sais, les enfants ont horreur qu'on leur mente, vaut mieux que tu le dises, etc. Mais en fait, c'est pas si simple, quoi. Donc, bah, parfois, elles sont confrontées à des trucs difficiles. Pas tellement de la part des autres adultes qui les entourent, mais de leurs propres enfants. Donc soit elle n'ose pas le dire, soit quand l'enfant s'en aperçoit, le dit par exemple au père qui va l'utiliser parce que le divorce se passe mal, ou des choses comme ça. Donc il y a des cas de figure assez sordides.
Moi je comprends vraiment les femmes qui ont peur de le dire à leurs enfants, dans la peur que leur mari le sache, dans la peur de se faire retirer leurs enfants. Quoi.
C'est arrivé dans au moins un cas qu'on connaît.
Moi, au lycée, je m'en suis pris plein la gueule.
Ouais,
mais en fait, il s'est passé un truc hyper trash. Bon, c'était un lycée de campagne, tout ça. Et moi, je ne dormais pas à l'internat, mais il y avait un internat. Et il y a une fille qui faisait un stage, qui est venue dormir à l'internat du lycée. Et c'est vrai qu'elle était lesbienne. Et ça, tout le monde en parlait dans le lycée, quoi, parce qu'elle était descendue à la grille, elle avait embrassé sa copine, et c'était une seule gouine et tout ça, et personne ne voulait dormir dans la même chambre qu'elle. Du coup, elle était isolée toute seule, et tout le monde en parlait. Et je me souviens des filles qui étaient à l'internat, qui en parlaient avec moi à la cantine, et je leur avais dit, mais en fait, on ne peut pas parler comme ça, enfin, vous êtes vraiment homophobe, et voilà, et qu'est-ce qui vous dérange, en fait, elle fait ce qu'elle veut, ça ne vous regarde pas. Et je leur avais jamais dit que j'étais lesbienne. À un moment, j'ai continué à en causer avec une fille, puis qui me disait « Non, mais deux garçons qui s'embrassent, ça me dérange pas, mais deux filles, je trouve ça vraiment dégueulasse et tout. » Et moi, du coup, je pouvais pas encore moins lui dire. Et après, à chaque fois que j'étais aux chiottes et qu'elles étaient en coin, elles venaient aux chiottes en même temps que moi, et genre, elles restaient vers les lavabos, quoi. Et elles disaient « Pédé, 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 pédé. » Parce que j'aurais dit « Pédé, pour moi, c'est une insulte aussi qui est homophobe, quoi. » Et voilà, et ça a duré pendant un an, mais juste à rien pouvoir faire. Et voilà, et du coup, il y avait une homophobie hyper forte, quoi, tout le temps, parce que cette fille-là, qui s'était retrouvée toute seule à l'internat, juste parce que tout le monde avait peur de dormir dans la même chambre qu'elle. C'est un contexte hyper trash, quoi.
C'est un fantasme un peu d'hétéro, ça, parce que... Une fois, pareil, quand Isabelle, ma compagne, avait dit à son travail qu'elle était lesbienne, il y a une de ses collègues qui lui a dit « Ah ben, pas moi, hein, m'approche pas, m'approche pas. » Isabelle lui a dit « Mais de toute façon, tu ne crains rien, tu ne me plais pas. »« Oh, mais tu n'aimes pas, mais tu vraiment un truc hallucinant. De toute façon, quoi que tu dises, t'as tout faux.
Ouais, ça fait comme quoi ça fait réagir aussi, ça suscite chez les autres personnes des réactions qui touchent à des choses intimes, enfin. Très souvent, les gens pensent a priori que je suis hétéro. Alors, je pense pas que ce soit forcément de la lesbophobie de leur part, c'est de l'hétérocentrisme. Ils n'imaginent pas encore forcément qu'il y a d'autres modes de vie possibles que le leur. Alors, il y a quand même la question qui tue régulièrement, c'est « Et alors, t'as des enfants ?» Alors, je dis non. Et alors, régulièrement, on me dit « Oh, pardon !» Comme si on m'avait insulté ou je ne sais quoi, alors que bon, je dis bah, « C'est pas grave, c'est un choix. » C'est aussi un choix. Alors, je sais pas ce que les gens pensent après, quand je leur ai dit que j'avais pas d'enfant, je sais pas ce qu'ils ont en tête après, s'ils se disent, ah ben, elle est peut-être queen, donc elle a pas fait d'enfant, vu son âge et tout, ça se faisait pas à son époque, machin. Ou bien s'ils disent, bah, elle est stérile, la pauvre, franchement, je la plains de pas avoir eu d'enfant. Voilà. Donc, il y a un peu ces trucs-là, quoi. Alors, bon, des insultes lesbophobes, si, on en a eu une fois avec ma copine. Parce qu'on se faisait emmerder par des voisins qui faisaient du bruit. Bon, à l'époque, ma compagne était gravement malade, elle était en convalescence. Et puis un jour, on s'est penché par la fenêtre pour demander d'arrêter de faire du bruit, quoi. On nous a insultés, bon, c'était des gens un peu éméchés, donc on leur pardonne. Et il y en a un qui a dit à Isabelle, « De toute façon, toi, si t'étais un homme, je te casserais la gueule. » Et sa femme a dit, « Ah, mais c'est un homme, c'est un homme. » Voilà, donc c'est un peu le seul cas d'insulte lesbophobe qu'on a eu à rencontrer, quoi. Parfois, on se tenait la main dans la rue, puis on a vu des jeunes un peu arriver, le grand sourire aux lèvres. On s'est dit, bon, ils vont nous traiter de salouine. Puis non, pas du tout, ils nous ont dit, bonjour mesdames, vous avez l'heure. Comme quoi, parfois, on a des préjugés, puis finalement, les gens s'en foutent un peu, quoi. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a des lieux où je me protège, moi, en ce qui me concerne.
Vous avez l'impression que c'est courant, les remarques lesbophobes dans la rue?
Moi, c'est arrivé une fois. Une remarque, je ne sais plus qu'est-ce qu'il a dit exactement, le gars. Enfin, il a fait une remarque désagréable parce qu'on voilà, on se tenait par la main ou je ne sais pas quoi. Et il a fait une remarque désagréable, je ne sais même pas ce qu'il a dit. C'est la seule fois quoi, où j'ai été vraiment confrontée à cette situation quoi, d'un gars qui nous croisait et qui a dit... Seul gouillet ou quelque chose comme ça, mais pas... Enfin, voilà, quoi.
Oui, comme moi, j'ai fait des ateliers de self-défense, et ben je lui ai répondu très vertement.
Puis elle a répondu quoi?
Mais je vous en prie, pour être poli, ça ne me regarde pas, enfin, je sais pas. Moi, j'aime pas insulter.
Je vous en prie.
Ah ouais, moi, j'aime pas insulter du tout, j'aime pas rentrer dans le jeu d'insulte, donc je rappelle, voilà, que... Ben, écoute, il n'a pas à mal me parler. C'est tout.
Et ça a marché du coup, il est parti.
Bah oui, enfin disons c'est un peu. Je pense qu'il n'était pas habitué à ce qu'on peut-être on réponde un peu avec eux aussi, comme ça. Fort d'abord, parce que d'habitude, tu vois, et puis voilà, en disant de voilà, que ça pouvait garder ses remarques pour lui, quoi, puis c'est tout, et puis ça ne regarde pas les points.
Oui, il s'attendait peut-être à ce que vous rasiez les murs après ça, quoi. Moi, je me suis toujours préparée. Je me suis dit, si un jour on me traite de sale gouine, je dirais que je ne suis pas sale. Non, mais... Mais bon, je vais traiter de sale gouine.
Non, mais moi, ça m'est déjà arrivé. On était deux. J'étais avec une amie, on marchait dans la rue et on nous a dit, il y a de moins en moins de femmes pour les hommes, il y a de moins en moins d'hommes dans ce monde, je sais pas, un truc de ce genre, et nous on n'a pas bien compris. Et puis c'était quelqu'un qu'on croisait et qui nous dit, et qui du coup nous crie Sam Green.
Ah ouais.
Et puis nous on dit oui, et fier en plus. Et il nous dit, et puis il me regarde et me dit va te faire enculer, grosse vache, et il part. Mais nous on a beaucoup ri en fait, parce que c'était, c'était tellement, ça tombait tellement de nulle part comme ça.
Et je me demande quand même si les gens ils agressent plus quand on est plus jeune, quoi. Mmh. Enfin, s'il y a des rapports avec ça, parce que c'est cool, j'ai l'impression que vous avez peu de trucs, en tout cas dans l'espace public, vraiment trash. Et moi, j'ai l'impression que je me suis vraiment agressée plusieurs fois de manière trash, quoi. Enfin, des trucs vraiment, vraiment. Ouais, c'est hallucinant, quoi. Alors, une fois où on était à un lac. Du coup, avec ma copine, et en plus, je sais pas, on avait même pas vraiment fait des trucs, je trouvais super clair de visibilité, quoi. Je sais pas, on s'était pas embrassé ni même tenu la main, en fait. Je pense, moi j'étais en train de nager, elle était sur la serviette, quoi. Et là, il y a des enfants qui arrivent au-dessus, et moi j'étais dans le lac, et du coup, je le vois, et il commence à faire lui jeter des pierres, et du coup, après, je reviens. Et là, c'était des enfants, mais ça qui était vraiment, moi, qui m'a super choquée, c'est que le plus jeune, il avait 8 ans, et ça devait avoir 8, 10, 12 ans. Et ils nous ont sorti des trucs, mais énormes, quoi. Genre, le plus petit, il a dit un truc du genre « Ouais, c'est des sales gouines, faut leur mettre des gottes dans le cul pour leur apprendre. » Enfin, je suis là « Oh, non, mais c'est pas vrai, quoi. » Hallucinant. Et genre, après, il a dit une espèce de truc, genre, un plus grand « Ouais, faut s'entraîner à les violer, faut s'entraîner sur elles, comme ça, ça leur apprendra à aimer les hommes. » Enfin, hallucinant. Alors que c'était quand même des gamins, et là du coup on leur a gueulé dessus, quoi, de partir, tout ça, et vu que c'était des enfants, bah genre ils sont partis, quoi. Enfin, tu vois, ils étaient un peu quand même, ils nous regardaient de loin. Mais tu te dis, mais enfin clairement ils l'ont entendu de leurs parents, enfin, ou d'adultes, quoi, ils ont pas été inventés des trucs pareils tout seuls. Et moi dans la rue, ça m'est quand même arrivé plusieurs fois de prendre des insultes, mais vraiment des trucs, ouais, menaces de viol, ou des trucs vraiment de ce style, quoi.
Je crois qu'il y a plein de fois où dans la rue je me suis pris des grosses remarques ou quoi.
Ouais.
Parce que j'étais avec une autre fille et pas forcément ma copine, quoi, mais juste parce que j'étais avec une meuf en me baladant dans la rue et je dois avoir une tête de gouine.
Ouais.
Et ça vous est déjà arrivé de vous faire draguer par des gars? Et aussi dans un truc de penser que c'est parce que on n'est pas tombé sur le bon gars, alors du coup on sait pas vraiment ce que c'est, alors du coup lui c'est un bon coup, alors.
Ouais. Quand on était jeune,
oui, c'est ça. Ça.
On est tranquille quand on a quelques rides, c'est génial. Vive la vieillesse.
Ou du moins ça se fait pas, si ça se produit, c'est pas dans les mêmes. Les mêmes procédures, c'est pas tout à fait pareil, je pense. Enfin, il me semble.
Ou en tout cas, il y a des gens qui lui ont dit, quoi, même si c'était pas forcément pour nous draguer, mais genre, avec une telle, de toute façon, elle est lesbienne parce qu'elle a pas trouvé le bon, quoi. Oui, ça, je pense que c'est encore une idée courante, hein. Peut-être moins forte chez les gays, d'ailleurs. On dit pas qu'ils ont pas trouvé la bonne. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a peut-être pas trop changé. C'est le côté un peu transphobie, c'est-à-dire que on ne supporte pas tellement un garçon efféminé, une femme, une fille masculine. Ça les dérange beaucoup plus que l'homosexualité, quoi. Bon, à la limite, ça les dérange pas qu'un tel soit avec un garçon et une telle avec une fille, mais il faut quand même qu'ils ressemblent à des garçons ou à des filles, quoi. Enfin, moi, j'ai remarqué plutôt ça chez certains jeunes. Ce qui les dérange, c'est pas être dans la norme du genre,
oui,
plus que par rapport à la sexualité, quoi.
Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui dérange, c'est d'être un peu dans la revendication, c'est-à-dire que si on est homo intégré, homo invisible, en fait, au sens où voilà, bon, on est un couple de femmes, bon, bah, tu peux venir avec ta compagne et tout, mais bon, si en plus, t'es quand même, tu continues d'être féministe, t'as des revendications aussi par rapport au lesbianisme, et tu parles de discrimination et autres, ça continue à être plus compliqué, je trouve. C'est un peu, voilà, bon, bah, c'est bon, vous acceptez, c'est bon, taisez-vous, voilà, qu'est-ce que vous voulez de plus, quoi. En gros, il y a un peu de cette idée aussi, je trouve. Pour moi, la transphobie, là où elle pourrait perdurer, c'est dans le traitement même du sujet. C'est-à-dire qu'on pose pas, on pense que c'est juste une anecdote qui relève de l'ordre purement du privé. Je ne suis même pas sûre que des fois on perçoive tout ce qu'on est obligé de faire pour, parce qu'on se sent finalement décalé quand même. C'est-à-dire décalé par rapport à une société dominante qui va te renvoyer des ci, des ça, et que toi, de toute façon, pour vraiment te sentir bien, voilà, tu mets en place ce qui te convient, quoi. Tu mets même d'avoir toute cette conscience, toute cette énergie, tout ça que...
Ouais, puis c'est tout l'imaginaire et de représentation, c'est que si tu le cites jamais, du coup, ça fait que dans tous les cas, l'imaginaire collectif, il est toujours que hétérosexuel, l'amour c'est hétéro, enfin, si c'est jamais précisé. Genre là, si vous intégrez mais dans la société, ça va, tout ça, mais il faut quand même pas trop parler de soi. Enfin, de ramener ça à une question de sexualité, alors que c'est pas qu'une question de sexualité, justement. Ou comme c'était anecdotique, alors que. Que les hétéros, je veux dire, tout ce truc de culture qui est autour, c'est pas juste. Enfin, elle est partout, quoi, donc obligatoirement.
Alors, on peut quand on est dans l'intime, dans le privé, quand c'est, et on dit que c'est uniquement de la sexualité, alors que c'est moins d'être que de la sexualité, finalement, ce que ça implique. Mixed in with the piss and beer are blood stains on the floor from the boy who got his head kicked in a night or two before. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. In the pubs, clubs and burger bars, breeding pens for pigs. Alcohol, testosterone and ignorance and fists. Packs of hunting animals roam across the town. They find an easy victim and they punch him to the ground. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these.
Oui, ma chérie.
Vous êtes toujours sur Dégenré, donc l'émission féministe sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Et on vient d'écouter un morceau de Chumbawamba qui s'appelle Homophobia. Alors dans cette émission, on vous parle du coup de violences, d'agressions qui peuvent être commises entre nous, donc qui peuvent aller entre des choses très quotidiennes ou des choses plus trash, des choses qui nous font peur, etc. Nous, ce qu'on pense, c'est un des facteurs qui fait que les femmes peuvent être plus portées à subir des violences. C'est le fait qu'en tant que petite fille, on ne nous a pas appris à nous défendre. On nous a plutôt appris à être gentille, douce, obéissante. Donc ça, c'est un des aspects du système patriarcal. On ne nous apprend pas à dire non, on ne nous apprend pas à poser nos limites. Donc, une des stratégies en réponse à ces agressions, ça peut être l'autodéfense féministe. L'autodéfense féministe, elle s'est développée dans différents pays, quoi. C'est quelque chose qui existe pas mal dans les pays occidentaux depuis les années 70. Mais bon, même avant, il y a toujours eu de toute façon de l'autodéfense, mais on va dire développée en tant que telle. Et alors, pour vous présenter un peu tout ça, on a fait une interview d'une instructrice d'autodéfense donc à Montréal, au Québec, qui fait partie du Centre de prévention des agressions de Montréal et qui va nous expliquer un peu plus l'autodéfense féministe, d'où ça vient, en quoi ça consiste, etc.
Oui, moi je suis instructrice au Centre de prévention des agressions de Montréal et j'enseigne aux femmes, j'enseigne aux adolescentes et j'enseigne aussi aux enfants par le biais de notre programme Espace pour les enfants.
Pour le cours Action, est-ce que tu pourrais nous parler d'où vient la méthode, un peu quel est l'historique de ce cours d'autodéfense, comment il s'est créé, comment il s'est développé?
Donc le programme Action pour femmes et pour adolescentes, c'est un programme qui vient... on existe depuis 1988, le Centre de prévention des agressions de Montréal. On a commencé à donner des cours en 1984. Quand on a créé le cours, on est allé chercher la philosophie du programme Espace, donc du programme pour les enfants qui est le CAP Espace, parce qu'il y en a aussi aux États-Unis, un peu partout dans le monde. C'est un programme de prévention pour les enfants qui demande aux enfants qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour se sortir d'une situation d'agression. Donc, on a pris cette philosophie-là et on demande aux femmes qu'est-ce qu'elles peuvent faire et qu'est-ce qu'elles veulent faire pour se sortir d'une situation d'agression. Le côté physique, on est allé chercher du Wendo. Le Wendo, c'est des techniques de karaté qui sont simplifiées. Donc, c'est pas des arts martiaux comme on l'entend. C'est plus vraiment des techniques de karaté qui sont simplifiées pour que toutes les femmes puissent faire ces mouvements-là et que ce soit des mouvements qu'elles soient capables de se souvenir aussi. Donc, la philosophie vient plus de cap-espace au niveau de qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer nos vulnérabilités. Et le côté physique est du Wendo.
Sinon, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la différence avec des cours d'arts martiaux ou d'autodéfense classiques qui peuvent être proposés aux femmes?
Ben d'abord, au niveau des arts martiaux, on ne va pas aussi loin dans le physique. Tu sais, les arts martiaux, il y a toute une philosophie aussi en arrière de ça, une philosophie de vie, souvent. Ça prend des années, voire des décennies à maîtriser les arts martiaux. On a besoin d'une pratique qui est assez régulière aussi. L'autodéfense, c'est très différent. Au niveau, par exemple, du physique, bien, on voit les mouvements pendant le cours. On pense pas qu'on a besoin de maîtriser absolument tous les mouvements. Toutes les femmes peuvent faire de l'autodéfense aussi. On va plus loin aussi parce que, OK, c'est important de savoir comment frapper, mais c'est important aussi de voir comment on peut se défendre au niveau verbal, comment on peut utiliser nos forces aussi dans notre non-verbal, comment on peut mettre nos limites, comment on peut identifier les situations d'agression, comment on peut sortir de différentes situations aussi. Donc, l'autodéfense, c'est vraiment plus adapté à la réalité des femmes, à ce que les femmes peuvent vivre en termes d'agression. Tandis que les arts martiaux, c'est souvent plus une maîtrise, quelque chose de très physique avec une philosophie, puis que ça prend du temps. Au niveau de, par rapport aux autres cours d'autodéfense, je pourrais vous en parler globalement. Qu'est-ce qui différencie le cours action des autres cours d'autodéfense? On est un des seuls cours qui avons une approche féministe. Donc, c'est-à-dire qu'on pense que les femmes, parce qu'elles sont des femmes, ont une vulnérabilité particulière par rapport aux agressions. Donc, on prend cette prémisse-là que les femmes ont une vulnérabilité, puis on essaie d'aller diminuer la vulnérabilité des femmes. Pas pour essayer d'avoir plus de pouvoir que les hommes, mais pour essayer d'égaliser les pouvoirs entre les sexes. Donc, notre approche est déculpabilisante. Donc, on essaie de défaire la vision que les femmes vont courir après ou que les femmes sont responsables de leur situation d'agression qu'elles vivent. On essaie aussi de défaire les mythes par rapport aux agressions, parce qu'il y a beaucoup de fausses idées qui sont véhiculés par rapport aux agressions. Et on pense que ces fausses idées-là, en plus de faire peur aux femmes, ça perpétue cette vulnérabilité-là par rapport aux agressions.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le décalage entre les mythes qui sont faits sur les agressions en femmes et la réalité?
Bien, on peut penser à un des premiers mythes par rapport aux agressions, c'est que on pense qu'on va se faire agresser par des gens qu'on connaît pas. On pense qu'on va se faire agresser dans la rue, le soir, par des gens qu'on connaît pas. Ce qu'on sait dans les statistiques, c'est que la majorité des agressions sont commises par des gens qu'on connaît. Ça, c'est au sens large du terme. Donc, ça peut être un membre de notre famille, collègue de travail, quelqu'un dans nos autres activités culturelles, bénévoles, quelqu'un à la maison, un voisin, un ami. Donc, quelqu'un avec qui on a un minimum de contact. Fait que de faire peur aux femmes en leur disant de ne pas parler aux inconnus ou de se méfier des gens qu'elles ne connaissent pas, ben ça a tendance à faire peur aux femmes et ça ne les protège pas vraiment parce que c'est une information qui est fausse. On sait aussi qu'il y a autant d'agressions qui sont commises en journée qu'en soirée. Fait que même si on dit aux femmes de ne pas sortir le soir toute seule ou de ne pas sortir quand il fait noir, ça les protège pas vraiment parce qu'il peut arriver quelque chose quand même en journée. Un autre mythe, c'est par rapport au lieu dans lequel se commettent les agressions. On a l'impression qu'on va se faire agresser dans les ruelles, dans les stationnements souterrains, dans les parcs. Et ce qu'on sait, c'est que la majorité des agressions sont commises dans des lieux où on se sent en sécurité. Que ce soit notre domicile, le domicile de la personne qui nous agresse, notre lieu de travail ou un autre endroit où on se sent en sécurité, où on a l'habitude d'aller. Fait que même si on évite certains endroits, ça se peut qu'il se produise quelque chose. Mais outre ces mythes-là, qui continue à faire en sorte que les femmes sont vulnérables parce qu'elles se méfient de situations qui ne sont pas nécessairement celles qui se produisent le plus souvent, ça a tendance à faire augmenter la peur des femmes. On a beaucoup de femmes qui ont peur de sortir le soir toute seule, que ce soit pour aller acheter du lait au dépanneur ou pour sortir voir leur famille. Donc, il y a beaucoup de femmes qui s'empêchent de faire des choses, qui ont peur. Et c'est aussi, c'est que ces règles-là, nous, on les appelle des règles de comportement qui dictent comment les femmes devraient intervenir, nous dit pas plus comment on peut réagir dans une situation d'agression. Ça veut dire que même si on sort pas le soir toute seule, on parle pas aux inconnus, on tient notre sacoche de telle ou de telle manière, on respecte toutes les règles qu'on nous a dit, si on se fait agresser, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ces mythes-là perpétuent la fausse information, mais c'est aussi donne pas d'outils aux femmes pour se sortir d'une situation d'agression. Donc, on continue à être vulnérable par rapport à ces mythes-là.
Et est-ce que tu peux nous parler un peu du contenu d'un cours d'autodéfense d'action?
Ben d'abord, on va plus loin que juste apprendre à frapper, juste apprendre à donner des coups. Donc, on va apprendre vraiment... ben d'abord, c'est quoi une agression? Qu'est-ce qu'on entend par agression? Comment on peut réagir si on vit une agression? Comment on peut identifier si on vit une agression? Comment on peut prévenir une situation d'agression? On voit des stratégies qui sont physiques. Donc, oui, on apprend des coups. On voit des stratégies qui sont verbales. Ça, c'est des choses qu'on va utiliser énormément dans notre vie aussi. Et on voit aussi comment on peut utiliser notre non-verbal pour se défendre. On voit à peu près toutes les situations d'agression qui sont possibles. Si l'agresseur est en avant de moi, s'il est en arrière de moi, si je suis collée à un mur, si la personne m'agresse verbalement ou psychologiquement, nous, on va parler plus d'agression subtile, par exemple. Donc, si on vit une agression subtile par rapport à une agression évidente, comment on peut réagir dans ces situations-là? On voit aussi les dégagements. Si quelqu'un nous prend le poignet ou nous prend la main, on parle des étranglements, des agressions armées. Donc, quand la personne qui nous agresse a une arme, quand il y a plus qu'une personne qui nous agresse en même temps. Les situations, nous, on les appelle les dégagements au sol ou les dégagements au lit. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans un contexte d'agression sexuelle? On va parler de prévention, de violence conjugale, les situations en voiture ou dans des lieux clos. On parle aussi de ce qu'on a le droit de faire au niveau légal, parce qu'il y a des lois qui existent au niveau de l'autodéfense. Donc, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Qu'est-ce qui nous protège? Les ressources qu'on a, à la fois les ressources à l'intérieur de nous, les ressources à l'extérieur de nous, les ressources professionnelles, les ressources personnelles qu'on a aussi. On essaie de voir à peu près tout ce qui est possible par le biais de mise en situation où on regarde les possibilités. Dans une situation, on se donne un contexte. C'est aussi des discussions. On se raconte des histoires de réussite. Nous, on appelle histoire de réussite, c'est des situations où des femmes se sont retrouvées se sont faites agresser ou on a tenté de les agresser et où ces femmes-là ont réagi et s'en sont sorties. Fait qu'on se raconte des histoires où les femmes ont réagi, où les femmes ont utilisé leur pouvoir d'une manière positive, où les femmes ont repris le contrôle sur une situation d'agression. Une des philosophies qu'on a, nous, au Centre de prévention des agressions de Montréal, c'est l'empowerment, ou la réappropriation du pouvoir. Qu'est-ce qu'on entend par empowerment? C'est que chaque femme est capable d'avoir le contrôle, le pouvoir sur sa sécurité. Donc, chacune d'entre nous, on n'a pas besoin d'objets, on n'a pas besoin de gens, ou on n'a pas besoin de se cacher pour assurer notre sécurité. Ça se peut qu'on sente qu'on manque d'outils. Un cours d'autodéfense, c'est qu'on vient chercher des outils, mais on a chacune le pouvoir sur notre sécurité. Réagir dans une situation d'agression, c'est utiliser l'empowerment parce que c'est de reprendre le contrôle sur la situation, de reprendre le contrôle sur notre sécurité.
Et est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe le cours, enfin plutôt un peu quelle est l'ambiance aussi?
En fait, c'est une très belle ambiance, c'est vraiment très agréable. Mais d'abord parce que c'est un cours de femmes, donc on est toutes des femmes, on a des réalités de femmes. Et une des conditions premières qu'on essaye d'établir dans notre cours, c'est au niveau du respect. Parce qu'OK, on est toutes des femmes, mais on a chacune nos différences, que ce soit des différences par rapport à nos expériences, par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à notre âge. Donc, il y a des femmes qui sont plus jeunes, il y a des femmes qui sont plus âgées, par rapport à notre orientation sexuelle, par rapport à notre origine ethnique ou culturelle, par rapport à notre langue maternelle, par rapport à sais, on pourrait nommer n'importe quelle différence par rapport à... Il y en a des plus pauvres, il y en a des plus riches qui viennent de quartiers différents et tout. Donc, on essaie d'établir un climat de respect de toutes ces différences-là. Fait qu'on arrive avec notre bagage, avec nos caractéristiques qui sont particulières à nous, mais on arrive, par exemple, et on est toutes des femmes. Donc, on essaie d'établir ce climat-là. Et souvent, ça va bien, on rit, les femmes vont poser des questions, on va se permettre d'être nous-mêmes, tout en se respectant, par exemple. Donc, ça, c'est important pour nous que chaque femme trouve sa place dans notre cours d'autodéfense, qu'elle soit capable de venir retirer ce qu'elle a besoin de retirer, mais tout en se sentant respectée.
Essa música é mais uma crítica, né, aos tempos violentos em que vivemos.
D'écouter un morceau qui s'appelle « Mulher Negra Tem Que Respeitar », qui est un morceau de Flavia Souza, Refem, Joyce, Toulen Maissé et Denise Fontoura. Ce morceau, en fait, on l'a passé entre autres parce qu'il est tiré d'une compile de hip-hop brésilien qui s'appelle « Femmes du hip-hop unies pour mettre fin à la violence contre les femmes ». Donc une compile qui est sortie en 2006. Et en fait, ce morceau lui-même est extrait d'une autre compile, donc toujours de féministes brésiliennes, qui est une compile en soutien en fait à des groupes de Wendo, donc d'autodéfense féministe en Brésil. Voilà, et cette compile s'appelle Camino das Mulheres.
Et puisque nous parlons d'autodéfense, alors moi je... J'ai envie de faire un peu de pub pour les différentes formatrices d'autodéfense que nous connaissons, puisque voilà, vous avez de la chance si vous êtes intéressé par l'autodéfense féministe. Nous connaissons en France et notamment à Grenoble des formatrices professionnelles en autodéfense féministe. Alors, celle de Grenoble, je vous donne son contact, elle organise des stages assez régulièrement. Le prochain stage d'ailleurs a lieu en décembre, c'est le dimanche. Donc le dimanche 6 décembre et le dimanche 13 décembre, il faut assister aux deux journées. Hein. Et ça c'est le prochain stage à Grenoble. Et il me semble avoir compris qu'il restait encore des places. Alors si vous êtes intéressé ou pour une autre date ou pour prendre des renseignements, le mail c'est riposte riposte@pimienta.org. Donc riposte@pimienta.org pour Grenoble. Si vous écoutez cette émission à Dijon, par exemple, eh bien, vous pourriez contacter une autre formatrice qui, donc, son mail, c'est femdochi, F-E-M-D-O-C-H-I, @yahoo.fr. Et puis, alors, par contre, si vous habitez en région parisienne, eh bien, vous pouvez contacter une autre de ces femmes qui, donc, alors, là, c'est... Ah, on n'a pas son adresse mail, mais on a son nom, et a priori, si vous tapez le nom de son club, un peu, eh bien, vous trouvez son contact sur Internet. Alors, c'est Diana Prince Club... Ah, ça doit être en anglais. Diana Prince Club Feminist Self-Defense. Et donc, c'est Diana Prince... Ah, ça va. Diana Prince Club Féministe sans E, donc en anglais, Self-Défense. Voilà. Et donc, toutes ces trois formatrices voyagent aussi dans d'autres villes. Si vous avez envie d'organiser un stage chez vous, n'hésitez pas à les contacter. Et elles se connaissent entre elles aussi. Enfin, vous voyez quoi. Donc, voilà. Les stages d'autodéfense, c'est vachement bien. Moi, j'en ai fait un et je trouve ça hyper bien.
Et donc, dans l'interview de Valérie, donc instructrice d'autodéfense au Québec, qu'on vient d'écouter, alors elle nous parlait d'histoires de réussite. Donc, des histoires de réussite, ben, on en a toutes, en fait. Hein. C'est des histoires où on s'est sorti de situations d'agression, que ce soit des choses... Enfin, voilà, différentes sortes d'agressions. Et puis, ben là, ce soir, on s'est dit qu'on allait vous en raconter quelques-unes, ben justement, pour pas toujours entendre des trucs qui se finissent mal, etc., mais entendre des histoires positives où on s'en est sorti, on a fait des trucs et ça a marché.
Alors, moi, c'est l'histoire d'une femme. Elle a rendez-vous chez son médecin de famille pour un examen général. Et pendant qu'elle est allongée sur la table d'examen, ben là, le médecin, il veut lui faire un examen gynécologique. Elle refuse dans un premier temps, mais il insiste. Et là, elle lui dit « Arrêtez, vous me mettez mal à l'aise !» Alors, le médecin a arrêté.
Alors, une autre histoire, c'est une ado qui faisait du babysitting, en fait, chez des amis de ses parents. Et un soir, le mec, il la raccompagne chez elle, et dans la voiture, il commence à lui tripoter la cuisse. La fille, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle l'a regardée dans les yeux et elle lui a dit « Dans 10 ans, c'est à ta fille qu'on va faire ça. » Le type, il s'est arrêté, il s'est mis à pleurer, il l'a raccompagnée chez elle. Elle a décidé d'aller plus loin, du coup, elle en a parlé à ses parents, qui du coup ont fait une confrontation avec l'homme. Puis ensemble, la fille, elle a décidé qu'elle irait plus garder chez ces gens-là.
Alors, il y a aussi l'histoire d'une femme qui fréquentait un homme depuis un certain temps. Et une fois, ils avaient une relation sexuelle et à un moment, l'homme, il insistait pour qu'elle fasse des choses sexuelles qu'elle, elle ne voulait pas faire. Et elle lui a dit plusieurs fois non, mais lui, il continuait d'insister. Alors à un moment, elle lui a demandé « Mais qu'est-ce que tu comprends pas dans non ?» Et là, il a réalisé en fait que ce qu'il était en train de faire et il s'est arrêté.
Alors, une autre histoire, c'est dans une entreprise, les femmes qui travaillaient dans cette entreprise se sont rendues compte qu'en fait, leur patron leur regardait toujours les seins, à toutes. Alors, elles ont décidé ensemble de faire toujours un mouvement avec les mains, en agitant les mains devant leurs seins, chaque fois qu'ils le feraient, de les regarder dans les seins. Et bah, il a arrêté.
Alors, encore une autre histoire. Donc, c'était une ado qui sortait d'une fête de l'école. Puis, elle parlait avec des garçons ben, un peu plus âgés qu'elle connaissait. Et à un moment, ils se sont mis à la pousser dans un coin sombre. Et elle a commencé à avoir peur, à se sentir mal. Alors, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est décidée à frapper tout de suite. Puis, elle leur a donné un coup de pied dans le tibia, un par un, si bien qu'ils l'ont laissé partir.
Il y a aussi l'histoire de deux filles qui étaient dans le bus. Et devant elles, il y a un homme qui a commencé à s'exhiber. Et alors, une des deux filles, elle a dit à l'autre très très fort, elle a dit à sa copine pour que tout le monde entende « Eh, regarde, on dirait un pénis, mais en plus petit !» Et là, l'homme, il s'est rhabillé, quoi, il a eu honte et il est parti du bus.
Une dernière histoire, c'était une femme qui avait quitté son conjoint, donc qui était violent avec elle depuis pas mal de temps. Puis quand elle l'avait quitté, elle lui avait dit que si jamais elle le recroisait dans la rue, ça serait lui qui changerait de trottoir. Puis un jour, ben, elle l'a croisé dans une station de métro. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est mise à faire une scène en criant « Regardez tout le monde, c'est à ça que ça ressemble un conjoint violent. Pendant des années, il m'a battue !» L'homme, du coup, il est parti en montant 4x4 les escaliers roulants pour s'enfuir. Puis elle a continué de crier jusqu'à ce qu'il disparaisse. Puis un autre jour, elle l'a recroisé dans la rue. Et là, c'est lui qui a changé de trottoir.
Ah ça fait plaisir, ces histoires-là. Et on va s'écouter un petit morceau de musique. Je crois, Amélia, tu veux nous dire un peu de quoi il parle ?
On va l'écouter et puis on en parlera après. Ah. C'est Witch Hunt, le morceau I Am Guilty. Alors, on voulait vous lire donc la traduction des paroles de ce morceau de Witch Hunt parce que elles sont fortes et elles vont dans la thématique de cette soirée. Je suis coupable. Je marche la tête baissée. Si je me concentre assez fort, peut-être qu'il s'en ira. Je hurle de toutes mes forces, mais personne ne m'entend. Je n'arrive pas à formuler les mots dans ma tête. Je n'arrive pas à exprimer ce sentiment. Le vide en moi, le mépris, la vengeance, la rage. La colère monte en moi. Je suis prête à exploser. J'ai peur de dire ce que je ressens. Je vais me faire agresser, violer ou tuer. Mais si je me tais, ça me tuera. Condamné que je le fasse ou pas. Piégé dans ce corps, avec nulle part où aller. J'ai honte d'être à l'intérieur de ma propre peau. Parce que si je porte une jupe, je suis une proie, je suis coupable. Si je le fais pas, je suis une gouine. Comment puis-je me regarder dans le miroir et sourire si tu me condamnes pour cela ? Je rêve d'un monde où je pourrais marcher dans la rue tête haute. Un monde où mon cerveau vaudrait plus que ma beauté. Ce soir, je reprendrai ce qui m'appartenait déjà. Avec un couteau, un fusil, je te chasserai, je te déshumaniserai, comme tu l'as fait avec moi. Et quand tu ne seras plus là, je me mettrai à vivre.
Ouais, c'est vrai que ça vaut le détour. Alors, notre émission prend fin. Avant de finir, j'ai envie de vous donner deux infos de deux événements féministes qui vont avoir lieu bientôt à Grenoble. Le premier, c'est jeudi, c'est demain. Jeudi 26 novembre, et c'est une soirée cinéma-rencontre avec Penda, qui est une femme africaine, qui va présenter un film qui s'appelle Yakai, l'espoir, de Michelle Crozas, et c'est un film dans lequel qui est une militante de la banlieue de Dakar. On la voit, j'ai pas vu le film, je peux pas vous dire ce qu'il y a dans le film, mais en tout cas après le film il y a un débat avec Penda et un débat sur un peu les contradictions d'un combat féministe et le rôle des femmes dans la vie sociale et économique, enfin en tout cas voilà, c'est Antigone, c'est 22 rue des Violettes à Grenoble, le tram C passe pas très loin, l'arrêt c'est Vallier-Catane je crois. Donc ça, c'est le premier événement jeudi 26 novembre. Et un deuxième événement, toujours à Antigone, qui est décidément un lieu où il se passe plein d'événements féministes. Et c'est super. Une projection d'un film qui s'appelle No, qui est un super film de Shahida Aisha Simmons. C'est un film nord-américain, des États-Unis. C'est un documentaire qui parle du viol des femmes noires et des histoires de survivantes qui défient la victimisation. Et moi, j'en ai un super souvenir de ce film.
Moi, je l'ai vu aussi. Il est vraiment hyper bien. Donc, venez à cette soirée, surtout que c'est assez rare
accès.
Ouais, d'y avoir accès aussi.
Donc, c'est le 9 décembre à 20h, toujours à Antigone, 22 rue des Violettes, à Grenoble. Et pour finir, donc parce que là, donc il est bientôt 8h, et à 8h30, nous avons rendez-vous Place Saint-Bruno pour manifester ensemble. contre les violences faites aux femmes. J'espère que toutes vous allez venir nous rejoindre. Et donc, pour finir, on vous propose de vous lire la fin du tract. Vous lire la fin du tract, et puis après, on finira sur une chanson...
De Vicious Irene.
Voilà.
Et qui parle justement des manifs de nuit. Alors, c'est pour ça qu'on l'a choisi pour finir cette émission. Et ça parle de reprendre la nuit, donc Taking Back the Night.
Et on se retrouve en décembre pour toujours d'autres émissions de Dégenrer. Voilà, donc on vous propose de vous lire la fin du tract.
Nous manifesterons contre toutes les violences faites aux femmes, qu'elles se passent dans l'espace public ou dans l'espace privé. La violence des hommes contre les femmes ne connaît ni classe, ni culture, ni religion, ni appartenance politique, en France comme ailleurs.
Nous manifestons contre la peur et la culpabilité inculquées dans la culture et l'éducation des filles.
Nous dénonçons la répression policière et les lois d'exclusion qui exposent encore plus aux violences les femmes stigmatisées.
Nous refusons la récupération de ces violences par les pouvoirs publics à des fins racistes et de contrôle social au nom de la sécurité. Vidéosurveillance, contrôle aux faciès, loi sur le racolage passif, etc.
Nous reprenons l'espace public et la nuit par une pratique collective et autodéterminée, sans drapeau ni parti.
Nous manifestons contre l'économie capitaliste qui écrase d'abord les femmes, bas salaires, CDD, temps partiel imposé, harcèlement, violence et chantage. Les patrons et les hommes rendent les femmes dépendantes de leur argent. 98% des propriétaires des moyens de production dans le monde sont des hommes, alors que 70% de la production est assurée par les femmes.
Nous désirons nous approprier nos corps et ses représentations, sans devoir se conformer aux injonctions de normes oppressantes, réductrices et stéréotypées véhiculées dans tous les domaines.
Nous dénonçons les violences spécifiques faites aux lesbiennes parce qu'elles s'aiment, affirment leur existence, se réapproprient des espaces, échappent au contrôle des hommes.
Nous dénonçons également les violences faites aux trans parce qu'ils ne rentrent pas dans la division binaire homme-femme de cette société patriarcale.
Nous sommes fortes et fières, nous sommes solidaires et en colère. Nous prenons la rue et la parole pour affirmer la liberté de décider de nos vies partout et toujours. Marchons la nuit pour ne plus nous faire marcher dessus le jour.